Corinthiens, chapitre 1, page 773, versets 15 à 23. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps qu'est l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Il a voulu que Christ, par Christ, tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui par son sang versé sur la croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis de Dieu par vos pensées et par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés par la mort de son Fils dans son corps de chair pour vous faire paraître devant lui, saints, sans défaut et sans reproche. Mais il faut que vous restiez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été proclamé à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, je suis devenu le serviteur.
Merci à Julie. Je vous invite à garder vos Bibles ouvertes, donc à cette page 700 quelque chose. 73, merci. Voilà, je vais prier d'abord, prions. Merci notre Père de ce que tu nous parles, et tu nous parles encore aujourd'hui par ton esprit. Et merci de ce que tu le fais par ta parole, cette parole que nous avons entre nos mains ce matin. Et nous voulons te demander de nous parler, de nous guider, d'illuminer notre cœur, de nous aider à comprendre cette parole pour que nous puissions te connaître davantage, te suivre de manière plus fidèle et t'aimer davantage. Père, nous te demandons ces choses au nom de Jésus. Amen. Alors, j'ai pu passer la semaine à la pastorale de notre association d'église à Évian-les-Bains. Évian, c'est une jolie ville en face de Lausanne, en Suisse. Et le lac Léman est magnifique. Et la vue des Alpes est à couper le souffle. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, il y a quelques semaines, il y avait des publicités de la SNCF pour nous encourager à nous rendre en Suisse. Et une affiche en particulier a retenu mon attention. Il y a l'image d'une montagne avec un randonneur et le slogan se lit ainsi. Le plaisir d'être en face de plus grand que soi. Et c'est vrai que c'est un vrai plaisir lorsqu'on voit la grandeur de ces montagnes, la grandeur de ces lacs. Ben on se rend compte qu'on est tout petit. On est ébloui par la beauté de la nature, ou je devrais dire la création, parce que c'est Dieu qui a créé ces montagnes et ces lacs. Et ce matin, par notre passage, l'apôtre Paul veut que nous quittions cette salle éblouie non par la beauté de la création, mais par la grandeur, la beauté du Créateur. Ce Créateur qui est le recréateur, le Rédempteur, le Sauveur de tous ceux qui ont mis la foi en lui, de tous ceux qui délivrent. C'est dans la présence de Jésus que nous sommes véritablement en face de plus grand que soi. Et Paul veut qu'on saisisse sa grandeur et qu'en la saisissant, on s'accroche davantage à lui, qu'on dépend de lui seul, qu'on dépend de lui pour notre progrès dans le salut, qu'on dépend de lui pour notre existence tout entière. C'est son but ce matin par ce passage, parce que Paul sait que trop souvent, notre vision de Jésus est trop petite, bien trop limitée. Alors nous arrivons à un point critique dans cette lettre. Nous avons déjà dit que le but de cette lettre est de nous persuader que Jésus-Christ est bien suffisant pour la vie tout entière, que nous n'avons pas besoin d'ajouter quoi que ce soit à Jésus ou à son œuvre, parce qu'il est assez pour nous, suffisant pour nous. En effet, lorsqu'on ajoute à Jésus, que ce soit des œuvres religieuses, des efforts, des philosophies, des théories, des expériences mystiques, on finit par enlever de Jésus, par réduire la portée de son œuvre. En fait, on finit par le quitter. Alors, c'est souvent très subtil. Le faux enseignement est rarement flagrant. Très souvent, il ajoute un petit quelque chose pour promettre une vie plus épanouie, une spiritualité plus radicale, une victoire plus rapide. Et sans savoir, nous amputons de Jésus la force de son message. Et Dieu n'est plus au centre, mais l'homme. Et cette foi en l'homme est une idole. Et pour nous prémunir contre de telles tentations, Paul veut nous parler ce matin positivement de Jésus. Il veut nous parler de sa grandeur et de sa suffisance. Voici le seul remède, voici la médecine préventive. Il faut que notre vision de lui soit agrandie, que nous soyons éblouis par sa grandeur, par sa beauté. Et voilà où le Saint-Esprit veut en venir, le Saint-Esprit qui a inspiré cette parole de Paul. Voilà où il veut en venir ce matin. Et nous allons voir ça en deux parties. On va voir que Jésus est plus grand qu'on ne le pense. Et dans une deuxième partie qui découle de la première partie, son salut est plus suffisant qu'on n'osait l'espérer. Alors revenons au verset 15 à 17. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Le tableau que Paul esquisse ici est véritablement époustouflant. Il nous laisse bouche bée. Jésus est l'image de Dieu. Alors cela nous rappelle le récit de la création. L'image, l'homme est créé en image de Dieu. Mais Jésus est infiniment supérieur aux hommes, tout en étant un homme. En Jésus, nous voyons véritablement Dieu. Cela nous rappelle l'évangile de Jean et cette conversation entre Philippe et Jésus. Je cite, Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe ? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père ?» Alors Jésus n'est pas le premier-né de toute la création dans le sens où il serait lui aussi un être créé. L'explication qui suit exclut cette interprétation-là, car c'est Jésus lui-même qui a créé toutes choses, toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. C'est par lui que Dieu a créé toutes choses. Ça nous rappelle le prologue de l'évangile de Jean. Je cite, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et plus loin, dans ce prologue, on voit que cette parole, c'est Jésus. Jésus de Nazareth. C'est Jésus qui a créé la terre, la lune, les planètes, le soleil, la voie lactée, la matière noire, toutes les galaxies qui existent. Jésus a créé les Alpes, les Vosges, les Pyrénées, Jésus a créé la Seine, le Rhône, le Rhin. Jésus a créé les chiens, les chats, les éléphants, les tigres, les ours, les insectes, les dinosaures. Et Jésus nous a créés, nous aussi. Il a créé nos mains, nos jambes, nos têtes, nos cerveaux, nos poumons, nos reins, nos cœurs. C'est lui qui nous a donné le souffle et la vie. Il est même le créateur de tous les trônes, dignités, dominations, autorités qui existent. Il n'y a rien qui n'a pas été créé par lui. Les anges, même ceux qui sont devenus déchus par la suite, ont été créés par Jésus, par le Fils. Il n'y a aucun pouvoir au ciel, bon ou mauvais, qui n'a pas été créé par Jésus-Christ. Personne ne peut lui dire « Je suis ton créateur ». Alors c'est vrai, ça suscite des questions, n'est-ce pas ? Le chapitre 1 de la Genèse nous dit que tout ce que Dieu a créé, Dieu, le Père, par le Fils, avec l'Esprit, était bon. Bien sûr, c'est après que le mal surgit. Alors pourquoi ? Pourquoi Dieu qui n'en est pas l'auteur ? Pourquoi dans sa souveraineté, pourquoi est-ce qu'il a permis ? Pourquoi est-ce qu'il, avec ses décrets éternels, pourquoi est-ce qu'il a décrété ? Mais ce qui est à surligner à ce stade, c'est que le dualisme n'est pas à l'ordre du jour. Il n'y a pas cette lutte égale entre le bien et le mal. Jésus est le créateur de tous les trônes, dignité, domination, autorité qui existe. Et s'il en est le créateur, il en est le Seigneur. C'est un point important. Jésus est le Seigneur parce qu'il est le créateur. Il est le roi légitime de toute la création parce que c'est lui qui a tout créé. Personne n'a le droit de contester son autorité. Personne n'a le droit n'a le pouvoir de lui résister éternellement. La société occidentale a tendance à nier l'existence de ces autres dominations et autorités maléfiques, mais elles sont bien là. Dans le journal intime d'Hélène Baer, une Française juive qui est décédée dans un camp de concentration pendant la Deuxième Guerre mondiale, un journal publié sous le titre « Une vie confisquée », nous lisons « Il y a sûrement une vie heureuse ». Il y a sûrement un bonheur autre part dans le monde qui m'est réservé si je survis, et certainement pour d'autres. Mais ce qui ne sera jamais effacé de ma mémoire, c'est la conscience de la valeur si petite de la vie humaine ou du mal qui est dans l'humanité, ou de la puissance énorme que le mal peut s'acquérir une fois qu'il a été éveillé. Alors c'est difficile à comprendre. Mais même sur ce mal-là, Jésus, qui n'en est pas l'auteur, est souverain. Cette création est créée par lui et pour lui. S'il en est le créateur, il en est le Seigneur. Et s'il en est le Seigneur, il est digne de toute louange, de tout hommage. Certes, toutes choses ne lui sont pas encore soumises, mais ce jour vient. Il viendra, car Jésus reviendra. Les montagnes sont donc à lui, les mers sont à lui, les animaux sont à lui, les êtres humains sont à lui. Tout est à lui pour chanter sa grandeur, pour proclamer sa gloire. Dans le psaume 8, nous lisons « Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre, ta majesté s'élève au-dessus des cieux. » Et dans le psaume 19, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Tout a été créé par le Fils, pour le Fils. Le verset 17 enchaîne en disant que le Fils est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Cela veut dire que leur existence est maintenue par Jésus. Notre existence est maintenu par Jésus. Notre prochain souffle, et ensuite le suivant, et ainsi de suite. Nul y devant tout, n'est-ce pas ? C'est lui qui garde les lois de la gravité en place. Si nous voulons comprendre le pourquoi des lois de la science, pourquoi de manière ultime la vie continue, et se conforme à des règles, des lois, des modèles, il faut comprendre que toute chose subsiste en lui. Ce n'est pas ce qui est dit en cours de science dans nos écoles publiques, mais c'est vrai. Et même ces professeurs qui ne le disent pas, lui doivent leur prochain souffle, la cape battre parce que Jésus est souverain sur l'univers. Et c'est ce Jésus-là qui est la tête de l'Église. Le verset 18 nous dit qu'il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Si Jésus est le créateur de toutes choses, s'il est l'instigateur de la création tout entière, ben il est également le premier-né d'entre les morts. Il est le premier de la nouvelle vie, de la nouvelle création, de la nouvelle humanité qu'est l'Église. C'est Jésus qui est passé de l'ancienne à la nouvelle création en premier. C'est lui notre pionnier, notre capitaine, notre rédempteur. Nous lui devons notre prochain souffle. Le prochain souffle dans nos corps dépend pour leur vie physique, mais c'est aussi lui qui nous a donné le souffle de la vie éternelle. Jésus est la tête de toute la création, celle qui a besoin d'être renouvelée à cause de la rébellion de l'homme, mais aussi celle qui a été renouvelée ou qui est en passe d'être renouvelée, d'émerger, de naître grâce à sa résurrection historique. Alors l'apôtre Paul veut nous montrer que Jésus est suprême, qu'il est vraiment prééminent, qu'il est vraiment le Seigneur. Le passage l'explique beaucoup mieux que moi, mais j'espère que nous sommes quand même éblouis par sa grandeur, par sa seigneurie. Nous avons besoin d'être éblouis par sa grandeur si nous allons dépendre de lui seul, si nous allons être prémunis contre cette tentation idolâtre de chercher ailleurs les solutions à nos problèmes, la force pour lutter contre nos péchés, la guérison pour nos blessures émotionnelles, le pardon de nos péchés. Nous devons voir que c'est Jésus, c'est lui seul qui est prééminent. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Nous oublions si facilement la grandeur de Jésus, n'est-ce pas? Pourquoi ne pas remercier Dieu cette semaine de ce que Jésus est le Créateur, le Seigneur de tout ce que nous voyons, de la planète, de la terre que nous voyons autour de nous, des personnes que nous côtoyons, du gouvernement qui nous gouverne? Remercions Dieu de ce que Jésus est même souverain sur les situations où le mal semble triompher. Prenons plaisir à contempler la grandeur, la seigneurie de Jésus. Dans sa présence, nous savons le véritable plaisir d'être en face de plus grand que soi, et de loin. On va passer à cette deuxième partie. Si nous comprenons davantage combien Jésus est grand, à quel point il est le Seigneur de tout l'univers, ben nous allons comprendre un peu mieux à quel point il est suffisant pour nous. À quel point son salut est suffisant pour toute la vie. Dans les versets qui suivent, Paul continue à utiliser ce petit mot « tout » pour surligner la grandeur de Jésus. Il n'y a personne au-dessus de lui et personne ni rien n'est en dehors du périmètre de son œuvre. Jésus est prééminent et son œuvre est pleinement suffisante. Il est pleinement Dieu, nous dit le verset 19, car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Jésus n'est pas un petit Dieu comme prétendraient les témoins de Jéhovah. Il n'est pas à moitié Dieu. Il n'est pas inférieur au Père. Il est de la même essence que lui, un avec lui. En Jésus le Fils se trouve toute la plénitude de Dieu. Sans doute ce petit mot « plénitude » est utilisé par ceux qui essayent de tenter les Colossiens avec une doctrine ou une pratique à ajouter à la foi chrétienne, comme si Jésus n'était pas assez. Oui, Jésus est très bien, un bon début, mais pour la plénitude, la vraie plénitude, le vrai épanouissement, il vous faut croire ceci en plus. Il faut faire ceci en plus, pratiquer cela. Mais non. Toute la plénitude de Dieu habite en Jésus-Christ, le Fils, le Créateur, le Seigneur de tout l'univers. Celui qui nous sauve est pleinement Dieu. Et c'est remarquable de voir cette confession de foi ici, cette confession de la pleine divinité de Jésus. Certains m'ont dit à tort que ce n'est que très tardivement que les chrétiens ont commencé à dire que Jésus est Dieu. Mais ce n'est pas vrai du tout. Thomas, le disciple de Jésus qui a douté, a dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Et Paul qui a rédigé cette lettre, la lettre aux Colossiens, bien avant que l'apôtre Jean ait écrit son évangile, le dit très clairement ici « Jésus est pleinement Dieu ». Il a fallu que ce soit Dieu qui nous sauve. Si notre salut a-t-il partiellement accompli par l'homme, ben nous aurions une raison d'être fiers. Mais nous n'avons pas le droit d'être fiers, car tout a été fait par Dieu, par le biais de Jésus. Dieu fait chair. En plus, si notre salut a-t-il partiellement accompli par l'homme, nous aurions une raison de le douter, car l'homme est tellement peu fiable. Mais fort heureusement, notre salut dépend de Dieu, de celui qui est le Créateur. C'est tellement rassurant car, comme disait Athanase, un des pères de l'Église, s'il est le Créateur, il a le droit de nous recréer, de nous sauver, de nous refaçonner. Un autre qui ne nous aurait pas créés n'aurait pas eu le droit de faire ça. C'est un peu comme aujourd'hui avec le copyright. Celui qui fait une œuvre a les droits légaux sur son œuvre. Seul le concepteur peut légalement changer ou refaçonner son œuvre. Tout autre changement est illégal et sujet à être rendu caduc. Mais Jésus peut faire ce qu'il veut avec sa création. Il a l'autorité divine de le faire. Son salut est pleinement légitime et puisque légitime, personne ne peut le contester. Personne ne peut le défaire ou le rendre caduc. Celui qui est pleinement Dieu vient pour nous refaçonner à son image, pour restaurer sa propre image en nous. C'est ce qu'on va voir dans quelques semaines au chapitre 3. Et ce Jésus, pleinement Dieu, est également pleinement sauveur. Il a plu à Dieu d'utiliser le Fils, l'agent de sa création, dans la recréation, la rédemption de toutes choses, dans la réconciliation de sa création à lui-même. Et en cela, on voit qu'il n'y a pas de contradiction entre la création, la première création, et la rédemption, la recréation en Jésus-Christ. Ce n'est pas comme si Dieu a failli avec la première création. Non, loin de là. En Jésus, le Créateur et le Rédempteur, les plans de Dieu dans la création, ce qu'on voit dans le livre de la Genèse, sont déclarés accomplis. En Jésus, nous voyons sa victoire. C'est Dieu qui a le dernier mot et non pas le mal. Et l'étendue de ce salut est immense. Le verset 20 nous parle de toute chose, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux. Alors nous avons une optique très personnelle ou un peu individuelle du salut. C'est moi, petit moi, qui ai été sauvé, pardonné, délivré. Alors ça, c'est pas faux et on va voir dans la suite combien salut individuel est immense. Chaque individu sauvé est un monde, un univers qui a été sauvé. Mais Paul veut que nous soyons éblouis par la grandeur, l'étendue de ce salut en Jésus. Je cite, « Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, la création tout entière. » Celle qui a été sujette à la frustration à cause de la rébellion de l'homme. La création tout entière trouve sa réconciliation avec Dieu en Jésus. Alors cela ne veut pas dire que l'enfer n'existe pas ou que chaque être humain sera sauvé. Jésus a affirmé de manière très claire que tous ne seront pas sauvés. Mais à coup sûr, tout le monde va fléchir le genou devant lui. Il y aura de l'ordre. Le bon ordre, la seigneurie de Jésus d'abord. Alors comment est-ce que Dieu réconcilie toutes choses à lui-même? C'est la suite du verset 20 qui nous l'explique. En faisant la paix par lui, par Jésus, par le sang, sans s'en verser sur la croix. L'apôtre Paul veut que nous saisissions que le sacrifice de Jésus sur la croix est suffisant pour nous réconcilier à Dieu. Or, ce sacrifice ne s'applique pas d'abord aux montagnes ou aux mers, aux animaux, mais d'abord aux hommes pécheurs qui aujourd'hui fléchissent le genou devant lui, qui s'abaissent devant lui et qui, par pure grâce, entrent dans cette nouvelle création, dans une nouvelle relation de paix avec Dieu. Et ensuite, toute la création est renouvelée. Ce sacrifice apaise Dieu. Il apaise de manière satisfaisante, de manière totale, sa juste colère à l'égard de nos fautes, à l'égard de notre rébellion à son égard. Ce sacrifice est assez. Et c'est pour ça que la croix doit rester au centre de la foi chrétienne. Presque chaque faux enseignement minimise la portée de l'œuvre achevée, terminée, accomplie à la croix. C'est là que Jésus a acquis notre salut. C'est là qu'il a vaincu ses ennemis. Et ses ennemis ne veulent pas que nous vivions de cette victoire-là. Ils veulent que nous oublions la croix. Que nous disions qu'elle n'est pas la chose la plus importante. Qu'elle est certes utile, un exemple, un début. Mais pas l'événement duquel il convient de vivre chaque semaine, semaine après semaine. L'événement duquel notre sécurité éternelle dépend, la guérison de nos blessures émotionnelles dépend, la victoire sur la chair dépend. Et c'est pour ça que c'est tellement important de garder la croix, son sacrifice, au centre de notre foi personnelle, de notre foi communautaire. C'est important que nos prédications y reviennent semaine après semaine, sans jamais que nous nous lassions de répéter les mêmes choses. C'est important que nos chants l'annoncent avec fermeté, avec joie. C'est important que nous célébrions la scène, le repas du Seigneur, régulièrement. Comme Michael a dit ce matin, elle est une parole qui nous centre sur tous les bienfaits présents et éternels qui découlent de la croix du sacrifice de Jésus, de cet événement historique, de cet événement qui a changé la vie du cosmos à tout jamais. Par la croix, par le sang du Fils, celui qui est à la fois pleinement homme et pleinement Dieu, la paix est possible. Et Paul conclut au verset 21 à 23 en évoquant cette paix dans la vie des chrétiens de Colosse. Le « vous » au verset 21 s'applique à nous aussi, dans la mesure où nous avons mis notre confiance en Jésus, que nous avons été délivrés en lui. Alors cette paix n'est pas une paix pacifiste. Il n'y a pas de drapeau blanc, il n'y a pas de concession, il n'y a pas de pourparlers, de dialogue, d'armistice, mais il y a une victoire décisive qui a tout changé. Nous n'avons pas cherché la paix. Le verset 21 nous dit que nous étions viscéralement opposés à cette paix. Nous étions les ennemis de Dieu, dans notre pensée, mais aussi dans nos actes mauvais, dans nos œuvres. Mais c'est Jésus qui a tout changé. C'est lui, par la croix, qui a vaincu le mal. Et on va voir ça un peu plus loin, donc au chapitre 2, dans les semaines à venir. C'est la croix qui signale la victoire complète, la défaite totale des ennemis. Mais qu'est-ce qu'on peut dire pour l'instant? Ce qu'on peut dire pour l'instant, c'est que le résultat de cette victoire, de cette réconciliation, est vraiment concluant. Il vous a réconcilié à lui-même. Et je cite verset 22, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Si vous êtes à Jésus, si au lieu d'être hostile à Dieu, vous êtes devenu un enfant de Dieu, un enfant qui aime son Père céleste, en Jésus, vous êtes déjà devant Dieu saint, sans défaut et sans reproche. Alors peut-être que vous vous dites, je ne suis pas très saint, j'ai plein de défauts, Et si Dieu veut me reprocher des choses, il y a un tas de choses à dire. Alors, si vous êtes comme moi, ce n'est pas faux. Mais il y a quelque chose qui est encore plus vrai. Vous êtes saint, sans défaut et sans reproche, aujourd'hui et dans l'éternité, parce que Jésus est saint, sans défaut et sans reproche. Et si vous avez mis votre confiance en lui, vous êtes en lui, caché en lui. C'est ce qu'on va voir aussi au chapitre 2. Et lorsque Dieu nous voit, il voit Jésus. Et il nous accueille à bras ouverts. Et c'est pour ça que le salut en Jésus est vraiment suffisant. Il est suffisant non seulement pour l'avenir, mais pour aujourd'hui. En Jésus, nous pouvons nous approcher de Dieu avec confiance. En lui, par lui, nous pouvons adorer Dieu. Nous pouvons lui être agréables. Nous pouvons profiter de la chaleur de sa présence, du confort de son amour, de la sécurité de ses bras. Et comme nous allons voir dans les semaines à venir, cette connaissance de Jésus est suffisante pour nous transformer en l'image de Jésus, pour défaire le péché si enraciné dans nos cœurs. Alors Paul finit le passage avec un avertissement de ne pas quitter la bonne nouvelle libératrice du Seigneur de toutes choses, par qui Dieu nous réconcilie pleinement à lui-même. Paul nous appelle à rester fondés et inébranlables dans la foi. Alors c'est une question de garder le même évangile que nous avons reçu au début. Ce même évangile qui est prêché de par le monde, c'est le même, c'est la foi universelle, pas une foi locale où quelque chose aurait été ajouté à la foi ou enlevé de la foi, peut-être par des philosophies mondaines comme on va voir au chapitre 2. La tentation de chercher des ajouts à l'évangile est toujours là, parce que ce que l'évangile nous promet, nous l'avons en espérance. Et parce que nous sommes si impatients, les solutions humaines qui promettent rapidement le bonheur ici-bas, l'épanouissement ici-bas, sont tentantes. Bon, nous sommes, reste avec Jésus, car il est le seul qui peut vraiment nous sauver. Et cela parce qu'il est le créateur de toutes choses. En Jésus, si on le voit tel qu'il est, nous sommes bien dans la présence de plus grand que soi. Il est vraiment grand. Jésus est vraiment puissant. Il est vraiment capable de nous présenter Dieu devant Dieu aujourd'hui et dans l'éternité, saint, sans défaut, sans reproche. On va demander à Dieu de nous aider à nous accrocher à Jésus cette semaine. Et aussi de nous donner une vision beaucoup plus grande de sa puissance et de la suffisance de son salut. Prions. Merci à notre Dieu pour Jésus. Merci. Nous voulons vraiment te remercier d'avoir envoyé Jésus, ton Fils, celui qui est l'image parfaite de Dieu. Merci de l'avoir envoyé il y a 2000 ans sur la terre pour que nous puissions saisir encore plus ta grandeur. Et nous te remercions pour le salut que nous avons en lui. Merci pour la délivrance que nous avons en lui. Merci de ce que ce salut est suffisant. Cette œuvre est suffisante pour nous réconcilier à toi, à tout jamais. Père, aide-nous à nous accrocher à Jésus. Donne-nous d'être forts face à la tentation d'ajouter des choses à Jésus, à douter de l'efficacité de son salut, à enlever du salut en Jésus. Aide-nous à être perspicaces aussi quand ces tentations se présentent. Père, nous voulons te demander cette semaine de nous donner une vision agrandie de Jésus, plus large, plus grande. Et aide-nous à le louer pour qui il est. Nous te demandons ces choses au nom de Jésus. Amen.